au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Lundi 2 février, j'espère que vous avez passé une bonne journée à l'émission. Aujourd'hui avec nous, Marc Pelletier, le directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi de Matawinie. Il sera question de la semaine des régions des jardins. Avec Pierre Paquette, on commente le sondage léger qui place Christine Fréchette en solide avance sur Bernard Drainville à la course à la chefferie de la CAQ. Odette Sarrazin sera avec nous, présidente des Amis de l'environnement Brandon. Il sera question du projet Axe-Vallée Saint-Laurent d'Hydro-Québec. Hugo Valiquette, directeur de la table régionale des organismes communautaires, sera avec nous. On va parler du programme de soutien aux organismes communautaires. Marjolaine Étienne, aussi présidente de l'organisme Femmes autochtones du Québec, va parler de violence conjugale. Mais tout d'abord, le Québec est de moins en moins considéré comme étant une terre d'accueil. Il y a des milliers de personnes, souvent des familles, qui ont choisi le Québec pour poursuivre leur vie, pour contribuer à leur façon à l'évolution du territoires qui sont maintenant menacés de devoir quitter en raison des critères nouvellement établis par le gouvernement du Québec. Et François Morin en discute avec le président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay.
Ben écoutez, oui, puis là, on partira pas dans une guerre, si vous le permettez, de programme, parce que les gens vont se perdre. Moi, pour me promener présentement à travers le Québec, là, il y a une réalité, là, tout le secteur touristique, les restaurants, je donne un exemple super concret, là, le restaurant, le McDonald's de Saint-Félicien, présentement, majoritairement, c'est des travailleurs qui viennent de l'étranger. J'étais allé manger dans un autre petit restaurant de Delbeau-Mistassini la dernière journée de ma tournée au lac Saint-Jean. Jacques, pour pas le nommer, un monsieur qui travaille ici justement depuis environ un an. Puis là, son permis temporaire, ben, il est sur le bord de terminer. Il est ici avec sa famille. Donc, ça demande bien qu'est-ce qui va arriver. Fait que vous allez comprendre que ces citoyens-là qu'on est allé chercher, qu'on voulait qu'ils viennent nous dépanner, venir nous aider chez nous, qui étaient en attente pour l'ancien programme du PEC, ben aujourd'hui, là, ils se retrouvent devant rien parce qu'on leur dit, si vous ne travaillez pas dans la santé, que vous n'êtes pas dans des programmes, dans des travails prioritaires, ben vous n'allez pas être sélectionné. Puis ils parlent très bien français. Donc, moi, je demande au gouvernement du Québec, au nom de l'Union des municipalités du Québec, d'avoir une clause de droit acquis pour les gens qui sont déjà sur le territoire du Québec puis qui parlent français. Je pense que ça, tout le monde est d'accord. Mais à un moment donné, il faut leur donner un peu plus de prévisibilité là à ces gens-là.
Le ministre semble quand même privilégier des secteurs très importants. On s'en en convient, là, la santé, les services sociaux, l'éducation, les garderies. Mais il y a quand même des secteurs où ces gens-là viennent travailler. Et on parle entre autres au tourisme, à l'hébergement, la Naudière, on en a plein d'entreprises qui vivent justement grâce à cette main-d'œuvre-là et on semble l'avoir oublié.
Ben, on dirait pour vrai qu'ils sont. Puis je sais que les députés, puis là, c'est un message à tous les partis politiques au niveau provincial, on dirait qu'ils ne se promènent pas sur le terrain parce que dans n'importe quelle région du Québec, présentement, là, quand j'arrive, je ne m'attendais vraiment pas dans ma tournée comme président de l'Union des municipalités du Québec qu'on me parle autant de ça. Donc, toutes les villes du Québec, c'est la réalité. Ils ont des gens là, qui sont là, qui font rouler l'économie. Puis, je la comprends pas, celle-là, pour vrai. J'ai de la difficulté à comprendre comment que les députés ne sont pas plus parlés de ça, de travailleurs étrangers, là, quel que soit le programme. Puis, Dieu le sait que la vitalité économique, oui, de la région de la Naudière, mais du Québec, vit beaucoup aussi au niveau du tourisme. Donc, je demande au gouvernement du Québec là, de mettre une clause grand pas. Je peux comprendre pour l'avenir, là, qu'on veut prendre un temps de réflexion, regarder, évaluer pour l'avenir. Mais on s'entend, c'est des gens qui sont déjà sur le territoire. Les entreprises, là, c'était des dessinateurs. Là. C'est rare, c'est super rare présentement. Ils en ont pas. Puis là, la personne, elle sait même pas si elle va pouvoir rester. Elle a déjà acheté son billet d'avion. Puis elle a complètement tourné le dos au Québec. Donc, même si on change d'idée, elle va repartir. C'est la réputation aussi du Québec là, qui est en danger. Là.
On peut se donner un autre exemple ensemble. On connaît une dame là, qui travaille pour le CJE, le Carrefour Jeunesse Emploi de la Matawinie, et son mari travaille à l'auberge du lac Taureau. Deux secteurs qui, quand même, on vient en aide à des jeunes pour les aider justement à traverser la vie puis avoir un bon emploi. L'autre travaille dans un domaine quand même récréotouristique et ces gens-là sont menacés de quitter. Puis ils ont deux enfants en plus qui vont à l'école, qui se sont implantés dans le coin.
Écoutez, je pourrais donner un local, aussi un exemple, sans le nommer, parce qu'il voulait pas que je le nomme, un gardien de prison qui, pendant la COVID, on en avait besoin, on est allé le chercher, là-bas, il était un travailleur essentiel, il habite dans le secteur de Montréal, il travaille dans le secteur de Montréal. Maintenant, vu qu'il travaille dans le secteur de Montréal, il fait pas de points avec leur nouveau système de tirage que personne comprend. Donc, à un moment donné, là, c'est simple ce qu'on demande, mais c'est d'avoir un droit acquis pour les gens qui sont déjà là. Puis après ça, on comprend pour le futur, ça, je pense. Puis l'Union des municipalités du Québec, on avait même fait faire un sondage. Puis 80% de la population, là, un sondage à 80%, c'est pareil, assez intéressant, c'est pratiquement unanime, que les gens disent, que les gens qui sont déjà ici au Québec, c'est pas un enjeu, je pense que c'est plus pour les gens qui s'en viennent, qu'on soit peut-être un peu plus, qu'on soit différent dans nos critères, c'est correct. Mais là, présentement, là, il y a vraiment un enjeu avec ces gens-là. Donc, je pense que c'est le gros bon sens. Puis le gouvernement nous parle souvent de gros bon sens, mais là, on leur demande, s'il vous plaît, de le faire agir.
On peut penser au moyen terme, c'est-à-dire l'échéancier électoral qui s'en vient au Québec, mais le très court terme, c'est la chefferie de la CAQ. Il faudra que les deux candidats se positionnent de façon claire.
Tout à fait, c'est ce qu'on va demander, parce que le prochain chef va devenir premier ministre.
Ça n'a pas de sens. On écoutait Guillaume Tremblay, il est le président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Mascouche. Et là, on parlait particulièrement de tourisme, mais j'imagine ce que c'est et l'inquiétude et l'arrachage de cheveux sur la tête là, pour les employeurs dans le milieu agricole ici dans la Naudière. Ça n'a pas de sens. Il est 16h11. Dans un moment, Marjolaine Étienne, elle est présidente de l'organisme Femmes autochtones du Québec.
La Semaine nationale de la prévention du suicide se déroule jusqu'au 7 février. Cette année, le thème régional « Ensemble, tissons l'espoir » circulera dans tout la Naudière. Tu es inquiet pour un proche ou tu penses toi-même au suicide? Joins en tout temps un intervenant du Centre de prévention du suicide de la Naudière au 1-866-APPEL. 1-866-277-3553.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. Nous sommes fiers de faire partie de votre communauté depuis maintenant 5 ans. Merci pour votre confiance, votre fidélité et votre soutien. Pour célébrer, nous vous offrons 4 changements d'huile gratuits à l'achat d'un Rogue et 2 changements d'huile gratuits à l'achat d'une Sentra, d'un Kicks ou d'un Kicks Play. Chez Joliette-Nissan, ce qui compte le plus, c'est vous. Merci de rouler avec nous depuis 5 ans et pour les années à venir.
Les matchs du Tricolore, c'est à l'échappée que ça se passe. Chaque soir de match, choisis ton joueur favori et s'il marque un but, tu mérites un shot gratuit. Lors d'un match en semaine, on prolonge notre 4 à 7 jusqu'à 20 heures. Les jeudis, c'est la soirée hockey avec DJ, tirage d'un chandail du CH présenté par la BAT et pique-assiette gourmand. Rate pas ça! Réservation fortement suggérée au 450-394-1658.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps, comme on plie une courte poigne, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
Lanaudière PM, Première Nation.
16h14, une semaine, même un peu plus d'une semaine après le drame qui a fait 2 morts à Manawan. Je vous rappelle qu'il s'agirait d'un féminicide, le suivi d'un suicide. Il y a l'organisme Femmes autochtones du Québec qui monte aux barricades et réclame des interventions de la part des gouvernements supérieurs. Les communautés qui sont durement touchées là, par la réalité des drames conjugaux veulent avoir les moyens de prévenir et de guérir. Et François Morin s'est entretenu là-dessus avec Marjolaine Étienne. C'est la présidente de Femmes autochtones du Québec. Il a parlé avec elle là, au moment où elle était sur la route.
Il faut trouver des moyens exactement et aussi des solutions collectives, si je peux appeler ainsi, dans une perspective d'avoir un travail collectif, car c'est quand même une responsabilité collective aussi également de pouvoir faire en sorte d'assurer la sécurité des femmes et des filles des Premières Nations à travers le Québec.
On disait, l'Assemblée des Premières Nations disait que, ou avançait que la problématique était un peu plus aiguë au sein des femmes autochtones. Est-ce qu'il y a une façon d'expliquer ça?
Bon, on a eu, au cours des derniers mois, un constat en matière de données que nous avons reçues et on observe effectivement l'augmentation, on observe un état assez alarmant. Où ce que, comme présidente, j'ai mobilisé certaines des organisations allochtones, autochtones autour d'échanges. On a eu deux rencontres depuis décembre. Une en décembre et l'autre s'est terminée le 22 janvier, l'autre rencontre. Et puis, c'est pour faire en sorte de montrer que la situation à l'heure actuelle sur les enjeux des réalités des femmes et des filles autochtones est quand même alarmante. Qui demande, bien sûr, d'avoir un travail collectif. Nous avons toutes, les organisations ont toutes une mission aussi également. Et puis dans cette mission-là, moi, je pense qu'effectivement, ça permet là, d'avoir un travail et un effort collectif là, à travailler et à mettre fin à la violence faite aux femmes et des filles autochtones.
Parce qu'on en convient, ce qui s'est passé du côté de Manawan, là, c'est pas un acte isolé, ça se retrouve, oui, dans les communautés, mais oui, aussi à l'ensemble, à l'échelle du Québec, là, on en parle beaucoup.
Bien sûr, c'est que la sécurité des femmes et des filles autochtones, ça doit demeurer une priorité. Les femmes et les filles doivent être assurées à avoir une protection quand elles sont dans leur communauté et en dehors de leur communauté. Et puis, je pense que en mis une action ou une table comme telle, qui est un tout début, je vous dirais aussi également, moi, je pense que ça fait partie comme une étape pour un mouvement collectif pour mettre fin à la violence chez les femmes et les filles autochtones.
Bon, parlez-moi-en justement un peu de cette table de concertation. On en est à nos premiers balbutiements, je comprends bien.
Oui, c'est un tout début. Comme je disais tantôt, c'est que la première rencontre a eu lieu le 5 décembre et on a eu une deuxième rencontre le 22 janvier. Et puis, cette table-là a été mise en fonction là, du constat que nous avons reçu, d'informations aussi également. Et les données m'ont mis, m'ont ébranlé. On le sait, hein, d'ailleurs, mais c'est encore plus confirmé quand on reçoit les données. Et puis, c'est avec les données là, qu'on travaille à ce moment-ci. Mais ça demande d'avoir un travail collectif, là, tous ensemble, pour mettre fin à la violence faite aux femmes.
Alors, outre, évidemment, le travail sur le terrain pour tenter de guérir, il faut quand même prévenir. Et c'est peut-être le plus gros de la tâche.
Ben moi, je pense qu'il y a un travail en amont avant que ça arrive à des tragédies. Et puis, en amont, on veut dire, bien sûr, à identifier des actions qui peuvent permettre d'amplifier nos organisations à travailler dans un même plan. Hein, j'appelle ça un plan de collectif ou un projet de société où ce qu'on souhaite que les femmes et les filles autochtones puissent vivre dans un environnement sécuritaire, épanoui. Et puis, moi, je pense que c'est un début de discussion, d'échange, que ça commence pour se permettre de conduire vers un objectif où ce que ça va être très bien pour les femmes et les filles autochtones.
En terminant, je vais mettre une hypothèse et vous me direz si, comme on dit en bon québécois, je suis dans le champ gauche, est-ce qu'on pourrait pas mettre en place des maisons d'hébergement dédiées pour respecter dans un concept de sécurisation culturelle?
Ben moi, je pense que ça prend des maisons d'hébergement. Ça prend des services appropriés et adaptés culturellement pour les femmes des Premières Nations. Des maisons d'hébergement par et pour les femmes autochtones. Et puis, moi, s'il y en faut pour ça, j'ai aucun doute là-dessus. On a besoin de tout le monde. Il y a déjà des services qui sont existants. Puis je pense qu'à l'heure actuelle, avec des femmes aussi qui ont subi des tragédies, des femmes autochtones et les femmes autochtones, ben moi je pense qu'il y a, il y a forcément, ou ce que j'appelle, j'interpelle le secrétariat à condition féminine, d'avoir une rencontre.
François Morin qui s'entretenait avec Marjolaine Étienne, elle est présidente des Femmes autochtones du Québec.
Lanaudière PM, communautaire.
La table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles demande au ministère des Finances d'avoir l'audace d'injecter 1,7 milliard pour soutenir la mission de plus de 3000 organismes communautaires autonomes là, du domaine de la santé, des services sociaux par le programme de soutien aux organismes communautaires. Et François Morin a demandé tout d'abord au directeur de la Troquel, la table régionale des organismes communautaires, Hugo Valiquette, si cette somme n'est pas un peu élevée, le compte tenu de l'état actuel des finances publiques?
Ben, en fait, c'est vraiment beaucoup. Puis, dans le fond, ce qu'il faut comprendre de ces chiffres-là, parce que à chaque fois qu'on rentre dans la question financière, il y a quand même à comprendre les différences. Les organismes ont exprimé cette année des besoins en santé et services sociaux de 910 millions de dollars. Dans leur formulaire qu'ils envoient au gouvernement, ils disent avoir besoin de 910 millions. Et au niveau de la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, eux, ce qu'ils font, c'est regarder l'ensemble de ce que devraient coûter les activités et ce que rendent les organismes communautaires autonomes. Et eux, quand ils font le calcul de tout ce que réalisent les organismes, ça devrait coûter 1,7 milliard à l'État. D'où la différence entre ces chiffres-là. Quand au niveau de la Troquel, on parle des chiffres québécois, nous, on parle toujours des besoins des organismes, ceux qu'ils expriment à la hauteur de 910 millions. Mais au niveau de la table des regroupements provinciaux, ils disent oui, c'est vrai, le 910 millions. Mais si les organismes là additionnaient l'ensemble de tout ce qu'ils font, c'est 1,7 milliard que ça vaudrait dans le trésor québécois.
Pas besoin de se faire de cachette, c'est à peu près certain, malheureusement, que le gouvernement n'accédera pas à l'entièreté des demandes.
Ben, c'est pour ça que nous, du côté des tables régionales d'organismes communautaires, ce qu'on revendique pour atteindre le 910 millions de besoins exprimés par les organismes, c'est d'avoir un plan sur 5 ans. Parce qu'on est tous conscients là, que de sortir 910 millions demain matin, ça sera pas comme ça. Par contre, s'il pouvait y avoir vraiment un plan de rattrapage pour réduire les écarts entre ce que les organismes ont besoin et ce qu'ils reçoivent, puis on se disait sur 5 ans, ça serait un horizon aussi qui permettrait aux organismes de planifier ces rehaussements-là. Donc, à chaque fois qu'on parle au niveau gouvernemental, on parle toujours d'un plan de rattrapage, on parle sur 5 ans. Et d'ailleurs, la coalition des trucks a rencontré la ministre Sonia Bélanger pour déposer les demandes des organismes et vraiment revendiquer ce plan de rattrapage pour réussir à en venir à bout à un moment donné de cet écart-là qui existe puis qui grandit d'année en année. Ça prend vraiment un coup de barre là. Et on a un budget qui s'en vient. Faut avoir des bonnes nouvelles pour les organismes communautaires autonomes. C'est plus que nécessaire. On le voit, il y a de plus en plus de mouvements qui se mettent en place. Cette semaine, c'est la semaine de grève et d'action des organismes communautaires en défense collective des droits. Il y a un autre mouvement qui s'en vient à la fin mars avec Communautaires à bout. Donc là, on voit, là, ça commence à popper de partout. Il faut que le gouvernement réponde positivement aux besoins des organismes.
Bon, avant de parler des activités, là, les moyens de pression dont on a déjà parlé, préciser davantage, est-ce que, à votre connaissance, la ministre Bélanger montre davantage d'ouverture que ses prédécesseurs?
Ben, du moins, je dirais pas nécessairement de l'ouverture, mais une compréhension des dossiers. Le fait que, comme ministre, avant ça, dans sa carrière, elle a œuvré dans un centre intégré de santé et de services sociaux à Montréal, a déjà une connaissance approfondie des organismes communautaires autonomes. Puis ça, ça fait la différence dans le dialogue et c'est ce qui nous a été rapporté.
Maintenant, on parle de ces moyens de pression-là. Cette semaine, est-ce qu'effectivement, ça commence à se faire sentir dans les différents organismes de la région?
Ben oui, absolument. Puis ce qu'on voit, c'est que en plus là, on parle d'un autre secteur qui est la défense collective des droits, qui est encore plus un secteur qui a besoin de rehaussement de financement. Ils sont oubliés d'année en année. Ils ont pas d'indexation de leur financement à la mission. Donc c'est particulièrement important d'entendre leurs revendications. Et comme Troquel, nous, on va appuyer chacune des démarches, chacune des demandes qu'ils expriment, parce que c'est En termes de réalisation de mission, il y a vraiment des freins énormes, ne serait-ce que de pas indexer les subventions. Vous le savez, le coût de la vie augmente. À chaque année, tout coûte plus cher. Et à ce moment-là, ben les organismes, comment ils peuvent réussir à augmenter les salaires quand leur budget n'est même pas indexé et n'est même pas rehaussé? Donc là, on est vraiment dans une situation qui fragilise des organismes qui sont dans des démarches qui sont hyper importantes. La défense collective des droits, c'est vraiment autant les personnes qui sont accidentées du travail, les personnes à faible revenu, les personnes vulnérables. Donc, c'est les personnes qui sont les porte-voix dans ces organismes-là, des personnes les plus vulnérabilisées.
Et en terminant, la dernière fois qu'on s'est parlé, on était en processus de décision si on allait adhérer au mouvement de grève qui était initié en Mauricie. Est-ce que ce sera le cas?
Ben, en fait, dans la région de la Nosière, on se rend compte en ce moment. Vendredi dernier, j'ai participé à une rencontre organisée par les organismes. Il y avait déjà 24 organismes là qui étaient mobilisés autour de la question. Nous, comme Troquel, on s'en parle à notre conseil d'administration mercredi le 4 février. Mais assurément, on va soutenir les organismes qui veulent aller vers les moyens de pression. Mais je sens la grogne et je sens qu'il y a des organismes là qui ont vraiment envie d'aller de l'avant avec le mouvement de grève. Donc, on va suivre ça, puis on va épauler les organismes aussi dans le cadre, justement, des mobilisations lanaudoises. C'est ça le cas. On va mettre en œuvre une diversité de moyens pour se faire entendre. Et là, je sens vraiment que les organismes là, arrivent à bout de souffle. Donc, c'est pour ça qu'on voit tous ces mouvements-là qui se mettent en place.
Voilà, c'est François Morin qui s'entretenait avec Hugo Valiquette, directeur général de la table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière. Il est 16h27.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Ouais, prudence, on signale que le soleil peut être éblouissant là, dans certains secteurs. Métropolitaine Est pour Charles de Gaulle danse depuis Marien et ce, jusqu'à la hauteur du pont d'étagement du CN. Traversée facile vers la rive nord, Repentigny, 40 Est. Ouais, ça se passe quand même relativement bien. Pont Le Gardeur, accès facile autant par Notre-Dame que par Sherbrooke. Ouais, un petit mot sur Repentigny pour vous dire que c'est passablement dense là, actuellement entre la 40 et sur Brien, là, entre la 40 et de l'autre côté, le boulevard Lacomble. Pour ce qui est de la 25 Nord, un peu plus nombreux, secteur de la jonction avec la 440. Sinon, on traverse aisément vers Terrebonne, Mascouche, ça va bien, 25 Nord. Pont Sophie-Masson, facile en ce moment et finalement, ça se passe très bien. Autoroute 640 dans les deux directions entre la 25 et la 40. Pierre Jubinville et l'actualité dans un instant.
Le Festival Saint-Combe-en-Glace se poursuit et ça promet pour un week-end spectaculaire. Vendredi 6 février de 18h, viens danser durant la Disco des Neiges à la patinoire du Centre de loisirs Marcel Thériault. Samedi 7 février, rendez-vous au Parc de l'Harmonie. Spectacle de Jeanne Héry à 12h30, atelier d'initiation à la sculpture sur glace de 13h à 16h, puis Martin Levac en spectacle de 14h30. À 16h, ne manque pas la grande soirée Feu et glace, concours de sculpture, DJ canot volant et feu d'artifice. Et dimanche 8 février, déjeuner, activité familiale et spectacle de Daniel Alejandro à 13h. Saint-Combe, c'est là que ça se passe. CFNJ sera sur place. Jusqu'au 14 février, laissez-vous envoûter par la promo Coup de foudre du Centre culturel Desjardins. Deux billets pour 60$ sur une sélection diversifiée de spectacles. Réservez dès maintenant vos billets pour Stéphane Archambault, Elle, la pièce de théâtre Merci d'être venu, Marc Dupré, Pierre-Luc Pomerleau, Ballet Ouest de Montréal avec Ella, l'histoire de Cendrillon ou encore Le poète et son luth. Une sortie à deux, c'est magique. Dites oui à l'émotion sur spectaclejoliette.com.
L'actualité de ce lundi 2 février, en manchette. Geneviève Hinze aurait contourné les règles de l'Assemblée nationale. La course à la direction de la CAQ se corse et l'Union des municipalités du Québec veut garder les immigrants au Québec. Pierre Jubinville, tout d'abord, des nouvelles révélations sur le conflit entre Geneviève Hans et Marois Risky.
Oui, c'est Radio-Canada qui nous apprend que l'ancienne chef de cabinet de l'opposition officielle cherchait des zones grises pour contourner les règles de l'Assemblée nationale. Elle se serait même acharnée à vouloir utiliser des fonds publics réservés à l'aile parlementaire pour embaucher du personnel pour Pablo Rodriguez, entre autres pour préparer la nouvelle plateforme électorale du PS. Dans un document juridique qui devrait servir de défense à Marois Risky, on apprend que Mme Hans a ignoré ses directives à répétition, ce qui a conduit à son congédiement. Ces allégations de la part de la députée de Saint-Laurent n'ont pas été prouvées en cour et Geneviève Hans, elle, a réagi en Elle a démenti formellement la version des faits de Marois Risky sans donner d'autres détails.
Et maintenant, course à la direction de la CAQ, Bernard Drainville qui rompt avec le passé.
Ouais, une course à la chefferie de la CAQ qui s'annonce plus corsée qu'on le croyait. Il a fait une croix en fin de semaine, M. Drainville, sur le passé pas si lointain du parti, en affirmant bien haut qu'il n'est pas le candidat de l'establishment et que sous sa gouverne, la CAQ ne sera pas le parti des subventions aux entreprises étrangères. Selon notre analyste Mathieu Bélanger, Bernard Drainville cherche vraiment à atteindre les membres actuels ou en devenir qui choisiront le chef.
Bernard Drainville qui a, dans son discours d'hier, souligné comment il appréciait certaines interventions de l'ADQ qu'il avait pourtant combattu à l'époque qu'il était péquiste, donc vraiment un virage à droite. Et en ce sens-là, donc justement, il va aller chercher les anciens ADQistes, les caquistes, surtout ceux qui sont un peu plus à droite. Il veut justement pouvoir dire, ben j'ai l'appui des membres de la base caquiste, et donc même si les députés caquistes, les ministres actuels caquistes ne m'appuient pas, moi Bernard Drainville, ben effectivement je vais avoir la légitimité pour opérer un tel changement, un tel virage.
Et d'autre part, on apprend qu'un autre ministre caquiste ne sera pas présent aux prochaines élections.
Oui, c'est le ministre des Transports, Jonathan Julien, de la région de Québec, qui ne se représente pas. Il est député de Charlebourg depuis 2018. Il écrit sur Facebook que le départ de François Legault a été le facteur déterminant dans son choix, mais il va terminer son mandat en octobre.
Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui s'en prend à Paul Saint-Pierre-Plamondon.
Il accuse à peu près tout le monde, caquiste et péquiste, de lui voler ses idées. Selon lui, les leaders de ces partis sentent le vent tourner et se rangent maintenant vers des idées plus à droite sur l'échiquier politique.
Qu'est-ce qui fait que Bernard Drainville, tout d'un coup, vire à droite? Moi, je suis content à le remarquer. Là, à chaque fois que même Paul Saint-Pierre-Plamondon, vendredi en Beauce aussi, là, il était rendu qu'il voulait abolir le Fonds de développement économique là, comme nous. Moi, je suis content qu'on se fasse voler nos idées. Ça prouve qu'ils sont bonnes. Et ils ne pourront pas nous accuser à la prochaine élection d'être farfelus et d'avoir des idées folles. Là. Quand tout le monde veut évoluer, ils sentent le vent tourner.
Pierre, il y a le dossier de l'immigration qui provoque toujours des remous.
Oui, l'Union des municipalités, encore une fois, lance un message au gouvernement. Il importe que de tout mettre en œuvre pour garder au Québec les gens qui ont choisi de venir faire leur vie ici depuis quelques années, qui travaillent, qui parlent en français, qui, dans plusieurs cas, ont des enfants qui vont à l'école. On écoute Guillaume Tremblay.
Je peux comprendre pour l'avenir, là, qu'on veut prendre un temps de réflexion, regarder, évaluer pour l'avenir. Mais on s'entend, c'est des gens qui sont déjà sur le territoire. Puis là, la personne, elle sait même pas si elle va pouvoir rester. Elle a déjà acheté son billet d'avion, puis elle a complètement tourné le dos au Québec. Donc même si on change d'idée, elle va repartir. C'est la réputation aussi du Québec là qui est en danger, là.
Et le ministre québécois d'immigration, Jean-François Roberge, n'arrive pas à nommer une seule organisation qui appuie sa position sur le programme Expérience Québec, le PEC. Il persiste et signe avec sa décision de ne pas accorder de clause grand-père aux immigrants installés ici.
C'est pas la fin du PEC et le remplacement par le programme du PSTQ qui force qui que ce soit à quitter le pays. Ce qui force des gens à quitter le pays, c'est quand Ottawa leur retire le permis de travail. Je veux dire, sinon, ils ont un statut temporaire, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans qu'ils ont un statut temporaire. Certains sont bien contents avec leur statut temporaire, d'autres veulent la résidence permanente. Et nous, on valorise le français davantage en plus.
Bon, ben, finalement, tu nous apprends rien de neuf, mais on le sait déjà, là, la monarchie coûte très cher.
Chaque fois, ça nous fait un petit quelque chose.
Ouais, hein? Ouais.
Cette fois-ci, on a appris que dans le contexte de déficit budgétaire, on apprenait donc que la visite du roi Charles à l'automne a coûté 2 millions. Et le député de Repentigny, Patrick Bonin, cite d'autres exemples de dépenses qu'il qualifie de farfelues.
Il y a aussi le salaire de la gouverneure générale qui va frôler les 400 000 $ pour une fonction purement symbolique pendant qu'on est en pleine crise du logement, que les familles ont de la difficulté à boucler leur budget d'épicerie, font face à une augmentation du coût de la vie. Et le bureau même de la gouverneure, il va coûter 40 millions de $. Parce qu'il faut pas oublier tous les anciens gouverneurs qui ont une pension à vie de 150 000 $ par année, qui peuvent demander un remboursement de leurs dépenses, et ça, ben jusqu'à concurrence de 200 000 $.
C'est vraiment lancer de l'argent
ça,
par les fesses.
C'est vraiment le job à obtenir.
Oui. Merci Pierre Jubinville. 16h35.
Lanaudière PM. Lanaudière PM. Claude Fournel. Lanaudière PM. Environnement.
16h35, le projet Axe-Vallée-Saint-Laurent-d'Hydro-Québec, un projet de ligne à haute tension qui va partir de la région de Portneuf et passer par la MRC de Dautré, suscite un questionnement. La Société d'État va installer des postes de transformation, soit à Saint-Cuthbert également, du côté de Saint-Norbert. Il va y avoir une rencontre d'information citoyenne avec des ressources indépendantes ce samedi à la salle communautaire à la mairie de Saint-Gabriel-de-Brandon. Et Michel Arnois en parle avec Odette Sarrazin, présidente des Amis de l'environnement de Brandon, qui, d'entrée de jeu, explique pourquoi on fait appel à des ressources indépendantes.
Dans toute l'évolution de ce projet-là, il y a de l'ingérence politique. Fait que donc, puis nos gouvernements, puis par rapport à d'autres projets aussi, c'est toujours les meilleures pratiques de l'industrie. Fait que c'est sûr que Hydro-Québec, pour eux autres, c'est les meilleures pratiques. Et nous, bien, on veut avoir l'envers du décor, si on veut, ou peut-être l'endroit. Le bon côté du décor pour les implications que ça va avoir du côté citoyen.
Je me suis laissé dire que ces nouvelles lignes-là passeraient sous des lignes existantes. Est-ce que c'est vrai?
Mais pas sous, à côté, parce qu'il y a déjà des servitudes. Hydro-Québec a déjà des servitudes qui ont été... qui ont dédommagé nos parents ou nos grands-parents il y a une cinquantaine d'années. Fait que donc, la servitude pour l'axe Vallée du Saint-Laurent, elle est déjà là. Mais excepté que là, dans le plan d'action 2035, j'y reviens, parce que là, c'est doubler la production et d'augmenter de je sais pas de combien de kilomètres. Ben pour nous autres, l'axe Vallée du Saint-Laurent, c'est 200 kilomètres de nouvelles lignes qu'on veut faire entre Sainte-Julienne et Portneuf.
Et ces nouvelles lignes-là passeraient sur des terres privées?
Bien, cette nouvelle... Oui, c'est nos producteurs, les gens qui sont à côté de chez nous. Là. Moi, je suis à Saint-Gabriel-de-Brandon et la ligne va passer un demi-kilomètre. Elle va être rapprochée d'un... Il y a déjà la ligne qui est là à peu près à un kilomètre, mais ça va être rapproché de chez nous.
Oui, vous voyez un problème?
Bien... Moi, je suis un problème. Oui, ben un problème. Si on pense juste physiquement, oui, quand il pleut, quand il neige, on entend crépiter tout le temps. Mais le problème, c'est que le Hydro-Québec, avec son plan d'action, c'est démesuré. Puis là, pour avoir fait le...
Pourquoi vous dites que c'est démesuré?
Ben, c'est démesuré parce que... Doubler la production d'énergie au Québec, d'énergie au Québec, est-ce qu'on en a besoin?
Là, il semble, parce qu'on est obligé d'en acheter dans des périodes de forte demande.
Ben, en tout cas, tout ça, ça pourrait être critiqué, probablement. En tout cas, il y a des gens qui le critiquent, en tout cas, dans notre réseau. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai participé au poste Jean-Jacques Archambault à Sainte-Julienne. C'est ça, pour dire que c'est démesuré, c'est que là, au poste Jean-Jacques Archambault, il demande 1100 mégawatts. Et nous, on a fait le calcul, à savoir 1100 mégawatts pour qui et pourquoi. Donc, on a fait le calcul. Hydro-Québec nous a présenté qu'il y aurait 55 clients qui auraient besoin de 5 mégawatts. Fait qu'on est loin du 1100. Nouveau Monde Graphite, dans leur BAP, la BAP qu'il y a eu en 2010, juste avant la pandémie, en février 2020, demandait 29 mégawatts. Puis là, il semblerait que là, on a c'est pour l'électrification. L'électrification, avec tout ce qui reste, c'est pour électrifier quoi? C'est que là, il n'y a pas de projet non plus d'électrification. C'est pareil comme là, on met un plat sur la table, puis on ne sait pas à qui ça va servir. C'est pour qui? On ne sait pas. Peut-être qu'eux autres le savent, parce que c'est pas très transparent leur affaire.
Je vais me faire l'avocat du diable. Il reste que c'est une énergie propre. C'est, C'est pas du gaz liquéfié, là.
Non, mais non, non, c'est ça. Non, c'est justement parce que Hydro-Québec, c'est une société d'État et qu'on veut, on veut la garder société d'État. On veut pas la privatiser. Et là, présentement, Hydro-Québec, avec son plan d'action 2035, j'y reviens, c'est que là, on privatise un grand pan, en tout cas, sont en partenariat privé avec les éoliennes. Et c'est inquiétant, là, parce que là, on privatise un pan de notre société d'État avec du privé. Et puis là, ben, quand je vous disais tantôt, l'électrifier, notre économie, est-ce que c'est pour des centres de données? Puis là, ben, justement, il y a Mme Whitmore, qui est une ingénieure à la chaire de gestion du secteur de l'énergie au HEC à Montréal. Elle nous met en garde que d'ici 2030, des centres de données pourraient consommer 289 gigawatts, près de 6 fois la capacité du Québec et autant d'eau que la population américaine. Est-ce que c'est vers ça qu'on veut aller? Si on s'en va vers ça, en tout cas, moi, je pense que le Québec va se soulever. Là. Je pense que la population va réagir.
L'idée, c'est d'être bien informé, c'est ça?
Bien, effectivement, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'on organise samedi, le 7 février, avec deux analystes, deux personnes indépendantes, dont Jean-Pierre Finet, qui travaille à la Régie de l'énergie, la Régie de l'énergie, qui est un peu notre garde-fou, si on veut, entre le gouvernement et Hydro-Québec, parce qu'on sait que le gouvernement, c'est l'employeur, Hydro-Québec, ben, c'est notre société d'État. Puis entre les deux, ils ont mis un organisme pour réguler un petit peu les choses entre les deux. Mais là, le gouvernement aussi, là-dedans, a modifié avec son projet de loi, puis avec sa loi 69, parce que c'est plus un projet maintenant, elle est adoptée, sous Bayon d'ailleurs, ce projet de loi-là a affaibli beaucoup les garde-fous qu'on avait, là, comme la Régie de l'énergie, ils ont enlevé des droits, fait qu'elle perd des droits de régulation parce que le gouvernement fait de l'ingérence dans ce dossier-là.
Donc, elle perd son indépendance un peu.
Ben c'est ça. Tout à fait.
Écoutez, on va inviter les gens à participer à cette réunion d'information si les gens veulent en savoir plus.
Oui, puis oui, on vous invite fortement. Et d'autant plus qu'on s'est fait dire l'année passée qu'il n'y avait pas de projet d'éolienne dans la Naudière. Pas de projet de parc éolien. Et là, ben Hydro-Québec a fait une carte qui nous montre que les projets éoliens, la Rive-Nord à Joliette, il y a un projet de 525 MW et pour la Matawinie, 100 MW. On ne sait pas. Semblerait que s'il n'y a rien de, ben, il y a rien de canné présentement, ça on le sait, mais ben, on ne sait pas qu'est-ce qui se travaille en arrière, par exemple. Parce que les compagnies, ces compagnies-là, que c'est des compagnies privées d'énergie, les compagnies éoliennes, ben, ils vont faire signer des ententes avant. Puis comme Hydro-Québec l'a fait aussi, là, avec Saint-Norbert, Saint-Cudbert, ils sont allés signer des ententes avec des producteurs pour pouvoir passer sur leur terre. Ben, avec les éoliennes, ils font la même chose. Fait, quand on le sait, ils ont déjà des ententes. Donc, oui, il faut se prémunir, il faut s'informer surtout.
Bon, c'était Odette Sarrazin avec qui Michel Arnois s'est entretenu un peu plus tôt. Présidente des Amis de l'environnement de la Naudière, je vous rappelle qu'il y aura rencontre d'informations citoyennes avec des ressources indépendantes ce samedi à la salle communautaire à la mairie de Saint-Gabriel-de-Brandon. Dans un instant, Pierre Paquette.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Toujours 5 000 $ à gagner dimanche à 10h05 avec les trois jeux et mercredi, bingo spécial à 19h30, carte pleine à 5 000 $. Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Didas-Dépanneur des Lacs, à Saint-Édouard-de-Masquinongée, Quincaillerie-Dépanneur 348, à Saint-Angèle-de-Prémont, Épicerie Jacques-Lessard, à Saint-Ursule-Dépanneur Marie-Lou, à Saint-Alexis-des-Monts, Dépanneur Beaussoir, à Saint-Paulin-Boucherie 4 Saisons et à Louisville, Tabagie Grand-Père, Dépanneur Régional et Dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Jusqu'au 14 février, laissez-vous envoûter par la promo Coup de foudre du Centre culturel Desjardins. 2 billets pour $60 sur une sélection diversifiée de spectacles. Réservez dès maintenant vos billets pour Stéphane Archambault, Elle, la pièce de théâtre Merci d'être venu, Marc Dupré, Pierre-Luc Pomerleau, Ballet Ouest de Montréal avec Ella, l'histoire de Cendrillon ou encore Le poète et son luth. Une sortie à deux, c'est magique. Dites oui à l'émotion sur spectaclejoliette.com.
Du lundi au vendredi, entre 11h et 14h, la Fromagerie Victoria vous propose un délicieux menu midi. Soupe, repas et breuvage à partir de 14$. Rapide et abordable, la solution pour vos dîners pressés. Fromagerie Victoria, 791 rue Gadoury, à Berthierville.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Sondage léger qui est un petit peu passé dans le beurre en fin de semaine. C'est sorti vendredi. Je pense que le vendredi, c'est pas la journée idéale pour publier des sondages comme ça, d'autant plus que ce sondage-là, c'est presque une brique qui nous apprend tout d'abord que Christine Fréchette est en solide avance sur Bernard Drainville dans cette course à la chefferie de la CAQ.
Oui, quand on demande aux gens s'ils ont une bonne opinion de Christine Fréchette, il y en a 39% qui disent qu'ils ont une bonne opinion, 18% qui disent qu'ils n'ont pas une bonne opinion. Drainville, c'est 27% qui ont une bonne opinion et 46% qui ont une mauvaise opinion. Alors ça, je suis convaincu que pour les députés de la CAQ et les militants de la CAQ, c'est des chiffres qui parlent beaucoup. Mm-hmm. Ben, il faut reconnaître aussi que 43% des gens disent ne pas la connaître. Alors, là, actuellement, elle bénéficie un peu de la bonne publicité que sa venue dans cette course-là a apporté. Là. Mais au fur et à mesure qu'elle va prendre des positions, ça risque peut-être de s'effriter cet appui-là. Mais pas cet appui, cette bonne impression, c'est plus ça.
Mais Bernard Drainville, bon, en fin de semaine, faut dire que Bernard Drainville a clairement indiqué en lançant sa campagne, là, c'était clair que Bernard Drainville faisait un X sur la CAQ de François Legault et allait de l'avant avec un programme résolument à droite qui ressemble un peu à celui de l'ADQ à l'époque. Il se contredit un peu avec ses valeurs du passé et il a subi aussi des attaques d'Éric Duhaime. On peut le comprendre parce que là, il s'en va, dans les plates-bandes d'Éric Duhaime.
Exactement. Puis là, toujours selon le sondage, il fait moins bien que Legault face au PQ.
Oui, alors, un point de moins que François Legault.
Ben oui, exactement. Alors ça va beaucoup parler. On sait que si Mme Fréchette était la chef de la CAQ, elle serait à 25% d'appui au sein de la population. Le PQ en perdrait et se retrouverait à 30%. Oui. Mais avec Drainville, le PQ augmente son appui. Alors, donc, je pense que ça, c'est encore des chiffres qui vont faire réfléchir beaucoup de monde.
Et là, il y a rien de certain avec ce qui se présente au point de vue politique, parce que quand on regarde le sondage, si on place, par exemple, Charles Milliard à la tête du Parti libéral du Québec, ce qui risque fortement d'arriver, et admettons Christine Fréchette à la tête de la CAQ, ou si c'est Bernard Drainville, là, les chiffres varient un peu et quand même, le Parti libéral, avec un individu qui est absolument inconnu du grand public, performe assez bien, là.
Ben oui, puis même M. Tanguay fait bien. Il y a un noyau dur, là, anglophone puis allophone, pour le Parti libéral du Québec. Et même, je regardais quand on épluche la brique, là, lorsqu'on parle du potentiel de croissance des partis politiques, c'est-à-dire quel serait leur deuxième choix s'ils changeaient d'idée en cours de route, là. Disons que si je suis libéral, je change d'idée, ça serait quoi mon deuxième choix? Pour les libéraux, c'est eux qui sont avec le PQ, qui sont le plus en avant. Il y a 43% des gens qui ont fait leur choix d'un parti politique qui serait prêt à envisager d'appuyer le Parti libéral du Québec. Alors, c'est quand même assez étonnant parce que c'est quand même un parti qui a connu pas mal de difficultés à l'automne dernier, qui a pas de chef vraiment encore officiellement, même si on sait que c'est M. Milliard qui va devenir le chef du Parti libéral du Québec. Et donc, ça va être quand même assez intéressant à suivre au cours des prochaines semaines. Ceci dit, la course, que ce soit au leadership, que ce soit à la CAQ ou au Parti libéral du Québec, n'intéresse pas beaucoup les gens.
Non.
Alors là, ça m'a un petit peu surpris, là. Mm-hmm. Il y a plus de 50% des gens qui ne s'intéressent pas à la course à la CAQ, et c'est presque 67% pour la course au Parti libéral. Donc, ça veut dire que cette course-là n'aura pas tant d'écho sur l'électorat pour l'élection d'octobre prochain.
Est-ce que, selon toi, ça veut dire que les gens ont déjà fait leur choix là, pour la prochaine élection, puis que ce soit un ou l'autre à la tête de la CAQ, ou une ou l'autre, je devrais dire, ça changera pas leur opinion là et leur choix est déjà fait?
Ben, ça va changer, mais ça va être à la marge. Ça n'enlèvera pas au Parti québécois l'avance qu'il a présentement. Ça peut la diminuer. Encore que il faut toujours être prudent. Une campagne électorale, ça sert à quelque chose, on l'a vu. Mais il n'y aura pas d'effet carné à la CAQ ou au Parti libéral du Québec.
Là où c'est... termine donc, Pierre.
Non, juste pour terminer, parce que Mme Fréchette a la même difficulté que Bernard Drinville. Ils étaient au gouvernement lorsque toutes les mauvaises décisions ont été prises. Ouais. Et on sait que le troisième lien, ça va être un gros débat au sein de la CAQ pendant la course au leadership. Drinville, il tient dur comme fer, même si c'est ça qui a coulé la CAQ, alors que Mme Fréchette dit « on va faire des études ». Je pense pas que les militants de la région de Québec vont se contenter qu'on leur annonce qu'il va y avoir d'autres études sur le lien, le troisième lien. Ils vont vouloir savoir ce qu'elle en pense. Alors,
Pierre, là où c'est pas trop réjouissant pour le Parti québécois, c'est l'appui à la souveraineté. On parle de 32 % en faveur de la souveraineté et de 68 % contre la souveraineté. Et quand on regarde parmi les partisans du Parti québécois, il y en a 74 qui sont en faveur et 26 contre. C'est pas fort pour le Parti québécois, ça.
Non, ça, c'est un gros problème pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Moi, je pense qu'il va falloir qu'ils ajustent leur discours vis-à-vis, entre autres, la menace que Trump peut représenter. D'une certaine façon, ce sondage-là a suivi Davos, et on sait que Carney a fait un gros hit international avec son discours à Davos. Ensuite, il y a eu le congrès d'orientation du PQ. On a parlé beaucoup de souveraineté, mais pas beaucoup des problèmes de tous les jours des gens. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il y ait un ajustement dans le discours du PQ. Ça veut pas dire, puis on en a parlé déjà la semaine dernière, faut pas d'aucune façon que Paul Saint-Pierre Plamondon abandonne l'idée de tenir un référendum.
C'est peut-être la façon de le faire. C'est d'attaquer de la façon qu'il attaque. Moi, je me souviens, René Lévesque, rapidement en terminant, là, je veux juste mentionner que René Lévesque expliquait le projet de souveraineté association. Il attaquait pas nécessairement.
Oui, puis il faudrait qu'il l'explique dans le contexte actuel.
Exact.
C'est-à-dire, moi, je pense qu'il peut reprendre même l'approche de Carney. C'est-à-dire, Carney dit que des puissances secondaires doivent se coaliser pour faire face aux grandes puissances, la Russie, la Chine, les États-Unis. Mais le Québec est dans la même situation et ce ne sera pas différent pour le Québec que ce l'est présentement pour le Canada. Mais il faudrait avoir un discours beaucoup plus articulé. Même, je le mentionnais la semaine dernière, je comprenais pas la position ni de Paul Saint-Pierre Plamondon, ni celle du chef du Bloc québécois concernant le discours de Davos. Là, il avait l'air de trouver que on allait faire de la peine à Trump. Puis aujourd'hui, Blanchette a dénoncé le fait qu'il y a des représentants de l'armée de l'air canadienne qui sont à la sortie du premier Boeing là, qui va F-35 qui va être livré à l'armée canadienne. Alors si c'est pas bon aujourd'hui, ça devait être aussi intéressant que à Davos le premier ministre du Canada appelle à une coalition des puissances secondaires contre les grandes puissances.
Pierre, c'est terminé malheureusement, manque de temps. On va se reprendre.
Je suis sûr que mercredi, on pourra y revenir.
Ah, certainement. Merci Pierre Paquette. Salut.
De rien. Bye Claude.
Lanaudière PM. Emploi.
On est en pleine édition 2025 de la Semaine des régions des jardins. Depuis plusieurs années déjà, les différentes ressources s'associent et parviennent à recruter entre 50 et 60 personnes de 18 à 35 ans venues de l'étranger. Et c'est sans compter leur famille pour qu'elles s'établissent dans la région. François Morin en discute avec le responsable de la région, dans la région, le directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi Matawini, Marc Pelletier.
Alors, Marc Pelletier, vous êtes le directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi Matawini et vous êtes responsable, si je comprends bien, là aussi, de l'agence ou de l'agent de place aux jeunes Matawini. D'abord, pour le bénéfice de tout le monde, il faudrait peut-être rappeler, effectivement, parce que c'est pas la première édition, qu'est-ce que c'est que Place aux jeunes en région des Jardins?
En fait, Place aux jeunes, c'est un programme qui existe depuis pratiquement 30 ans, là, qui est dans toutes les régions du Québec pour attirer des jeunes professionnels qualifiés en région. Fait qu'on on a dénoté par le passé naturellement l'exode des jeunes diplômés. Puis l'objectif, c'est de les ramener en région, de leur faire découvrir les régions du Québec, de faciliter aussi leur intégration dans la région. On le sait, là, quand on s'implante dans un nouveau milieu, trouver un emploi, un appartement pour soi, pour son conjoint, sa conjointe, les enfants. Donc, c'est vraiment tout ça. Puis l'activité de la Semaine des régions met en lumière particulièrement donc le projet. Ça va faire la 15e édition cette année, là, qui se déroule du 2 au 6 février.
Bon, donc, ça débute aujourd'hui. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, il y a des outils qui sont en place. Est-ce qu'on a eu quand même des résultats concrets là, au cours des dernières années?
Partout dans les régions, là, on accueille des diplômés. Là, j'ai pas le nombre exact par rapport à tout le Québec, mais ce qu'on a comme chiffre à vous donner, c'est aussi les retombées des migrations. Qui sont issus de Place aux Jeunes. Nous, on a fait une étude là, par la firme Aviseo. Donc, puis ça démontre là, des retombées de 32 à 158 millions annuels pour les régions du Québec. Parce que ben, il y a 1500 migrations par année là, qui contribuent à l'impact des différents territoires dans la province de Québec. Parce que ben, on calcule naturellement les gens qui vont intégrer un emploi, qui sont mieux rémunérés, leur famille également, ils vont dépenser, ils vont investir leur milieu, leurs enfants également vont grandir. Ça fait que c'est vraiment là, des grandes retombées pour les régions du Québec. Également, un élément qui est intéressant, c'est au cours des 15 dernières années, 90% des jeunes qui ont migré en région grâce à Place aux Jeunes sont toujours en région. Puis 66% sont toujours dans la même MRC. Ça fait que dans le fond, là, le projet, je vous dirais, le programme maintient ses promesses. Là. On voit que les gens, quand ils font appel à Place aux Jeunes, et ils changent de région, ben ils restent pour de vrai parce que c'est ce que les agents et les agents de Place aux Jeunes font, prendre un soin méticuleux de ces jeunes-là pour vraiment trouver le bon endroit pour eux. Puis si c'est pas le cas, si c'est pas dans notre région comme à La Naudière par exemple, ben ils vont les diriger vers des collègues pour être sûr que chaque personne puisse répondre à ses besoins.
Est-ce qu'on est en mesure de quantifier ou de qualifier là les opérations des dernières années, soit en Matawinie précisément ou dans l'ensemble de la région de La Naudière?
Moi, je vous dirais là, dans La Naudière au grand complet, puis ce programme-là, naturellement, se déroule dans les MRC là, de Joliette, Dautré, Matawinie et Montcalm. Donc, ça de migration directe, c'est-à-dire des jeunes qui sont accompagnés, on parle de 50 à 60 nouvelles personnes par année qui viennent s'installer dans La Naudière, en plus de leur famille. Donc, c'est ce qu'on peut voir à peu près là une dizaine là, de nouveaux citoyens qui arrivent à chaque année, des jeunes diplômés qui viennent donc enrichir notre communauté puis qui viennent aussi donner un coup de pouce aux entreprises du coin ou même partir leur propre entreprise parce que ça aussi, ça fait partie des options de dire, ben moi, je veux un jeune, par exemple, en Matawinie, des jeunes au niveau d'agriculture qui viennent s'installer pour développer leur entreprise de micro-pouce à ce titre d'exemple. On en a beaucoup dans les dernières années.
Donc, c'est dans tous les domaines d'activité économique?
Effectivement, il y a des semaines, on a nous des virées agro, donc pour faire connaître tout le milieu agricole de la Naudière, en fait, qui est très, très riche. On a aussi des visites plus spécialisées au niveau de la santé. On sait que notre réseau de santé a besoin de gens pour venir y travailler, donc il y a des visites aussi par rapport à tout ça. Il y a toutes les autres également métiers spécialisés dans les municipalités aussi. On peut parler de direction de services, des travaux publics, en urbanisme, donc beaucoup de types d'emplois couverts. Puis naturellement, les entreprises aussi peuvent faire connaître et rayonner leurs offres d'emploi par des plateformes en rejoignant les agents de Place aux Jeunes. Donc nous, on les affiche partout au Québec.
Je veux pas vous faire faire de politique de façon indue, mais rassurez-nous, c'est pas des jeunes qui sont menacés par les nouveaux critères mis en place par le gouvernement?
Malheureusement, certains pourraient, parce que dans le fond, Place aux Jeunes, c'est vraiment 18 ans et diplômé et qualifié. Donc, effectivement, il y a des gens, des Québécois de partout qui viennent s'installer en région, mais il y a également des Français, des gens de d'autres nationalités. Donc, là, actuellement, moi, dans la Matawinie, qui sont membres de Place aux Jeunes, j'ai pas de personne, mais je connais des gens des jeunes professionnels là qui sont à risque là de malheureusement devoir quitter dû à la politique du gouvernement du Québec. Donc,
mais quand même, on trace un bilan positif et on a espoir.
Effectivement. Ben, en fait, pour les maintenir, pour maintenir ces gens-là au Québec, on l'espère. Mais pour Place aux jeunes, là, effectivement, ça, nous, c'est un bilan très, très, très positif. On le voit, moi, j'ai même eu des gens au Carrefour Jeunesse Emploi là, qui pilotent le programme Place aux jeunes, des employés qui sont issus de Place aux jeunes, puis qui sont toujours en région. On a des gens de mon conseil d'administration qui, il y a 15-20 ans, fait appel à Place aux jeunes pour venir s'installer, puis qui sont encore dans la région. Donc, ce programme-là a démontré toute sa beauté, puis sa pertinence également avec tout ça. Donc, c'est pas pour rien que au courant de la semaine du 12 6 février, il y aura des activités dans les grands centres du Québec, de Montréal, Québec. Donc, le 4 février, il y aura le 5 à 7 des régions au POP de l'Université Laval. Le 5 février, il y aura des promotions des emplois en santé et services sociaux à l'Université de Laval. Donc, on fait connaître également les divers emplois dans ces secteurs-là, dans les centres des métropolitains Montréal et Québec. Dans cette semaine-là, il y aura plusieurs également régions qui vont faire sur les médias sociaux des quiz, des activités pour faire connaître leur région, leurs perspectives, leurs atouts, si on veut. Donc, aux étudiants des grands centres pour venir, en espérant qu'ils puissent venir s'installer chez nous.
Voilà, c'était Marc Pelletier, directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi Matawinie, avec qui François Morin s'est entretenu un peu plus tôt. Je remercie nos collaborateurs à l'émission, François Morin, Pierre Jubinville, Michel Arnoy, ainsi que Pierre Paquette, ici Claude Fournel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Il ne faut pas manquer dans un instant Nicolas Bellemare, qui sera là pour le 5 à 7 rade. Nous, on vous donne rendez-vous demain pour une autre édition de l'Anneau d'IRPM à 16h. Ciao, bonne soirée.